Encore une fois, Dieu notre Père, nous sommes sous ton regard et nous voulons nous nourrir de ta parole. Nous voulons te demander que toi-même, tu la rendes intelligible à nos cœurs et à nos consciences, que nous puissions laisser cette parole nous pénétrer, nous saisir, nous illuminer, et que ton esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions discerner les merveilles de ta loi et leur application au temps actuel. Nous comptons sur toi. Nous voudrions être comme les disciples d'Emmaüs, marchant avec le Seigneur et écoutant le Seigneur lui-même leur ouvrir les Écritures. Et nous te demandons que nos cœurs, ce matin, puissent brûler d'amour pour toi. Et qu'au travers de toutes ces pages, nous puissions te reconnaître. Toi, le vivant, qui te révèle. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont pu lire les 6 chapitres? Oui, magnifique. Fantastique. Alors, au fond, je pourrais commencer par la dernière question, là. En ce 22 octobre 1988, dans notre première étude sur la maison, sur son fondement, je vous ai fait lire donc ces 6 chapitres, 157 versets, c'est moins que le psaume 119, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 119, mais vous avez lu au fond 157 versets, c'est un bon exercice. Alors, dans la dernière question, je dis, en quoi sommes-nous concernés par ces chapitres de l'Ancien Testament? Je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de lire l'Ancien Testament, mais il nous concerne parce que Jésus lui-même, vous le savez, dans le chapitre 5 de Jean, disait aux Juifs, parlant de l'Ancien Testament, alors que le Nouveau Testament n'existait pas encore au temps de Jésus, il leur disait, vous sondez les Écritures. Les Écritures, c'était quoi? C'était l'Ancien Testament. Jésus disait, vous sondez les Écritures, ce sont elles qui témoignent de moi. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut y trouver un témoignage rendu au Seigneur Jésus. Ça, c'est Jean 5, verset 39. Voilà déjà quelque chose qui nous concerne. Quand nous lisons les épîtres de Paul, au chapitre 15 des Romains, nous avons ce merveilleux verset qui dit, au verset 4 du chapitre 15, « Tout ce qui a été écrit, donc toutes les pages de l'Ancien Testament, depuis la Genèse à Malachie, donc les écrits de Moïse, comme aussi des prophètes, comme aussi l'histoire des rois, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous ennuyer. Non, pour notre instruction. Donc, c'est clair. Alors, si c'est pour notre instruction, il faut les lire, sans on n'est pas instruit. Pour notre instruction, afin que par la patience, vous voyez qu'il faut aussi de la patience, puis on en a tous besoin, vous le demandez à Dieu. Bien, lisez l'Écriture et vous aurez de la patience. Par la patience et par la consolation que donne quoi? Les Écritures. Ce sont les Écritures qui nous donnent patience et consolation. Vous voulez de la patience, vous voulez de consoler? Lisez les Écritures. Et lire les Écritures, c'est pas seulement lire les Évangiles ou chercher dans un psaume un petit verset de consolation, parce que les psaumes nous apportent beaucoup de consolation, mais c'est lire toute la parole. La consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans ces jours où les gens sont si déprimés, voulez-vous être de ceux qui espèrent encore? Eh bien, lisez les Écritures. Voilà un bon remède. Maintenant, dans le chapitre 10 des Corinthiens, première épître aux Corinthiens, vous avez un autre verset qui vous montre l'importance de lire l'Ancien Testament. Il est raconté, enfin, toute l'histoire d'Israël, Paul passe ça en revue, et il nous dit ceci, que tout ce qui est arrivé à Israël a été écrit pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 11 du chapitre 10. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez vous demander, mais quel avertissement as-tu à me donner à moi ? Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui s'applique à ma vie présente. Nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde qu'il ne tombe. Quand on voit toutes les chutes des hommes de l'Ancien Testament, cela nous met en garde. Ah, parce que nous nous disons, ben, nous sommes bien comme eux. Nous aurions pu faire comme eux. Alors, au lieu de juger tous ces hommes de l'Ancien Testament, eh bien, nous prenons un avertissement qui nous rappelle que nous sommes faibles. L'esprit est prompt. Il y a eu des hommes dans l'Ancien Testament qui ont fait de grandes choses, mais nous voyons que leur chair était faible. N'est-ce pas ? Alors, nous aussi, peut-être que nous avons des grands élans, mais souvenons-nous toujours que notre chair est faible. Et nous avons tout l'Ancien Testament pour nous le prouver. Maintenant, pour vous montrer que chaque page peut vous parler et vous révéler le Seigneur, je prends 2 Timothée, le verset bien classique du chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée, qui est le testament spirituel de Paul, où il nous est dit que, verset 16 et 17 du chapitre 3 de la deuxième à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et de nouveau l'écriture c'est l'Ancien Testament, et utile pour enseigner, donc c'était utile que vous lisiez ces 6 chapitres, pour convaincre, j'espère que vous avez reçu aussi non seulement un enseignement, mais une conviction, pour redresser, peut-être que vous avez vu quelque chose dans votre vie qui doit être redressé par ce que vous avez lu, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Puis, je vous citerai encore la parole que vous trouvez dans Luc, que j'ai mentionnée dans ma prière. Quand Jésus ressuscité s'est approché des 2 disciples qui marchaient tristement vers Emmaüs, il leur a expliqué dans les Écritures, il est du chapitre 24 de Luc, toutes les choses qui concernaient Jésus, qui le concernaient. Et alors, il est dit au verset, chapitre 24, que quand ils l'ont reconnu, une fois que Jésus a disparu, verset 32, ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Nous avons besoin donc du Seigneur pour nous expliquer les Écritures. Alors, c'est à son école que nous voulons être maintenant. Et puis, vous voyez que plus tard, quand le Seigneur s'est révélé aux apôtres, eh bien, il est dit ceci, encore verset 45, « Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Donc, les écrits de Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est ce que vous avez au verset 44 et 45. Donc, c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu et qui nous parle, mais pour comprendre cette parole, il nous faut avoir la pensée du Christ. Il nous faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et si nous avons ces sentiments-là, eh bien, je crois que dans ces journées, nous allons comprendre même des passages qui, à première vue, nous paraissent arides. Alors, vous avez commencé, donc, ce livre d'Esdras. Peut-être que quelqu'un s'est dit, mais qui est Esdras ? comme je vous ai expliqué hier à ceux qui ne le savaient pas, ce que voulait dire Mahanaïm. Et on m'a dit aujourd'hui qu'une des sœurs avait demandé à quelqu'un ici, qu'est-ce que ça veut dire Mahanaïm, votre groupe Mahanaïm. Et bien sûr, notre ami a pu expliquer à ses sœurs, qui sont très intéressées par ce qui se passe dans ces groupes, qu'elles voient venir plusieurs fois dans l'année ici. Alors, elle se questionne, qu'est-ce que c'est ce groupe et qu'est-ce que c'est que Mahanaïm, que veut dire Mahanaïm? Alors, il faut que vous le sachiez et que vous répondiez par l'écriture. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était au chapitre 32 de la Genèse que vous trouvez ce nom de Mahanaïm, qui veut dire, enfin, deux cohortes ou le camp de Dieu, où Dieu se rencontre avec les hommes, quels qu'ils soient, indépendamment de leur milieu. Eh bien, qui était cet Esdras? Alors, vous voyez, d'habitude, quand vous lisez un livre, il est dit Ésaïe, le prophète, fils, etc., ou Jérémie, tandis qu'ici, il n'est pas parlé d'Esdras, la première année de Cyrus. Vous avez bien le titre Esdras. Nous, on voudrait savoir qui est cet Esdras, hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher un dictionnaire? Non. Lisez un peu plus loin. Quand on n'a pas compris quelque chose, quand il manque quelque chose, vous continuez de lire. Et vous arrivez au chapitre 7. Et c'est au chapitre 7 que vous trouvez qui est cet Esdras. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, quand on commence à lire, on désire lire davantage. Et si vous voulez mieux comprendre, allez plus loin, cherchez encore. C'est toujours dans la Bible que vous trouverez la réponse. La Bible s'explique par la Bible. Alors, quand vous arrivez au chapitre 7, eh bien, il est dit, après ces choses, parce qu'il y a deux parties dans le livre d'Esdras, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, donc celui qui a écrit le livre, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils d'Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Akitud, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zerekia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Siné. Ça commence un petit peu à s'éclairer, hein? Mais vous voyez, pourquoi est-ce qu'on lit tous ces noms? Mais c'est parce qu'on veut savoir leur généalogie, on veut savoir d'où ils viennent, ces hommes-là. C'était Esdras. Qui était-il? C'était un Israélite, hein? Il fallait de la race d'Israël. Alors, il faut qu'on connaisse sa nationalité. Mais pour connaître la nationalité de quelqu'un, il faut connaître sa généalogie. Et vous voyez que là, dans ce passage, vous avez une explication concernant ceux qui sont montés de la captivité et qui ne pouvaient pas prouver leur nationalité. Ils ne pouvaient pas être au service du Seigneur. Ils ne pouvaient pas être dans le service de la maison, parce qu'ils ne pouvaient pas prouver leur généalogie. Alors, si vous voulez un éclaircissement sur ces gens qui ne pouvaient pas prouver leur généalogie, vous avez ici quelqu'un qui pouvait la prouver, et qui avait veillé, qui tenait à sa généalogie, et qui pouvait la présenter. Il était fils d'Abishua, fils de Phiné, qui était fils de qui? D'Éléazar, qui était fils de qui? D'Aaron. Alors vous commencez à vous y reconnaître, n'est-ce pas? Et Aaron était fils de qui? De Lévi, n'est-ce pas? Alors on y arrive, n'est-ce pas? Puis après on peut continuer. Mais c'était donc un Lévi, c'était Esdras. Et qu'est-ce que nous apprenons de lui? C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Donc il avait lu la loi de Moïse, les saints rouleaux de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, les saints livres de Moïse. Cet Esdras était un subversé dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, elle était donnée par qui? Il l'avait inventée? Il l'avait trouvée à la cour du Pharaon? Ces lois? C'était les lois de l'Égypte? Non. Il avait reçu cette loi de qui? De Dieu. Alors, souvenez-vous du Sinaï. Donné par l'Éternel, le Dieu de quel pays? De quel peuple? D'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Est-ce que ça ne vous dit rien? Est-ce que la main du Seigneur ne peut pas être aussi sur vous? la main du Dieu d'Israël était sur ce Moïse. Elle y était depuis longtemps, hein, parce qu'il aurait dû être mort. Hein. On devait le tuer. Avant sa naissance, il y avait un décret qui disait que si c'était un garçon, il fallait qu'il meure. Hein. Comme on ne pratiquait pas l'avortement, alors, une fois né, il devait mourir. Voilà que il n'est pas mort. Sa mère avait la crainte de Dieu, elle l'a caché, mais ensuite, elle ne pouvait pas le cacher toujours, elle a eu cette foi, elle s'est inspirée de l'arche de Noé, puis elle a fait sa petite arche à elle. Puis elle a mis son Moïse dans ce petit coffret qu'elle avait fait, qu'elle a enduit comme on avait enduit l'arche, elle employait les mêmes matériaux, parce qu'elle elle vivait dans la crainte de Dieu, elle connaissait aussi son histoire, comment Dieu avait sauvé Noé, et puis elle a mis ce coffret dans le fleuve. Mais les crocodiles, le Seigneur est le patron des crocodiles. Ils ne mangeront que ce qu'ils doivent manger. Mais Moïse ne sera pas dévoré par les crocodiles. Les lions, ils sont aussi au service du Seigneur. J'ai raconté quelquefois l'histoire du missionnaire avec les lions, hein, qui s'est adressé à eux quand il était entouré de lions, puis il leur a dit « Ne me touchez pas, je suis un serviteur de Dieu comme vous. » Et les lions ne l'ont pas mangé. Et ça se passait il y a quelques années seulement, en Afrique. Eh oui, parce que les lions sont au service de Dieu. Vous pouvez faire une étude sur les lions à travers la parole. Hein. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes au service du Seigneur, les animaux sont aussi au service du Seigneur. Même les ânesses. Hein. Je ne sais pas si vous croyez aux histoires d'ânesses, mais enfin, Dieu peut faire parler une ânesse. Alors combien plus peut-il faire parler des hommes et des femmes? Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. C'est quand même merveilleux. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera plus tard. Hein. Mais voilà, maintenant, on sait qui est Esdras. Parce que je voulais que vous sachiez qui est Esdras. C'était un scribe et qui connaissait la loi. Mais non seulement il connaissait la loi, je vous lis encore un verset là. Hein. Verset 10. Hein. Cet Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Ben, c'est ce que vous avez fait ce matin. Hein. Vous avez étudié 6 chapitres. Et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il faudra maintenant mettre en pratique ce que vous aurez compris. Et puis seulement après, nous pourrons enseigner. Hein. Comme je vous ai dit, Jésus, il a d'abord pratiqué, puis ensuite il a pu enseigner. Et voilà pourquoi il avait de l'autorité. Pas comme les scribes, qui, eux, connaissaient la loi, mais ne la vivaient pas, et voulaient enseigner les autres. Et ils étaient durs à l'égard des autres, de tous ceux qui enseignaient. Ils étaient durs, parce qu'ils ne vivaient pas eux-mêmes cette loi. Il faut d'abord être instruit dans cette loi. Il faut qu'elle nous ait réellement touchés, qu'elle nous ait convaincus que c'est la vérité. Alors on met en pratique cette loi, puis ensuite on peut l'enseigner aux autres. Voilà donc le rôle d'Esdras. Et nous savons que c'est lui qui a écrit ce livre. Alors maintenant, vous avez lu la première année de Cyrus. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Cyrus? Dès que vous trouvez ce mot Cyrus, vous vous dites, mais est-ce que dans la Bible, il était question déjà de Cyrus? La première année de Cyrus, roi de Perse. Et c'est là que vous voyez que l'unité de l'écriture. Il faudrait aller dans Ésaïe, je vous cite ça en passant, Ésaïe 44 et 45, et nous voyons que ce Cyrus qui était roi de Perse, qui était donc un païen, et cela, ça peut encourager mes frères et sœurs qui ont parmi eux des personnes dans leur famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que le Seigneur peut les toucher par sa grâce. Regardez au chapitre 44 d'Ésaïe. Plus d'un siècle avant la naissance de Cyrus, à peu près 2 siècles avant, eh bien, il était fait mention de lui. Verset 28, déjà depuis le verset 26, 26 du chapitre 44. Ésaïe disait, par la parole du Seigneur, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Alors, vous voyez, il y avait une parole. Et quand Ésaïe, parce que je ne crois pas à ce que certains théologiens nous disent que il y a deux Ésaïe, il y avait le premier Ésaïe qui va jusqu'au chapitre 40, puis le deuxième Ésaïe aurait été écrit après l'exil. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Dieu ait pu parler de Cyrus avant sa naissance. Quand on ne croit pas, on ne croit pas. Est-ce que Dieu vous connaissait avant votre naissance? Bien sûr. Il nous connaît avant notre naissance. Depuis quand est-ce qu'il nous connaît? Depuis l'éternité, avant la création du monde. Et nous avons eu une place dans la pensée de Dieu avant la création du premier atome de la terre. Alors c'est quelque chose de fantastique. Il nous a connus. Vous étiez connus. Vous aviez une place dans son cœur avant la création du monde. Alors qu'est-ce que le monde peut vous faire? Pourquoi auriez-vous peur? Puisque Dieu, lui, vous connaissait. Rien dans ce monde ne devrait nous troubler. Alors ne nous laissons pas troubler. N'ayons pas peur, le Seigneur nous connaissait. Dans le sein maternel, il est dit que tous nos jours étaient inscrits alors qu'il n'y en avait encore aucun. Quand nous étions formés dans le sein de notre mère, Dieu inscrivait les jours qui nous étaient destinés. De sorte que l'histoire de la longueur de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vivre à la gloire de Dieu. Que ce soit quelques années ou que ce soit de longues années, mais qu'il me garde fidèle. Cyrus donc était connu de Dieu, et quand Ésaïe a annoncé ces choses, Jérusalem n'était pas encore détruite, le temple n'était pas détruit, mais vous voyez ce que c'est qu'un prophète. Il doit annoncer à l'avance des choses qui n'existent pas encore. Le monde ne pouvait pas croire, mais le temple de Salomon était là, c'était une splendeur, la ville était là, et puis voilà un homme qui commence à prêcher que le temple serait rebâti. Ça veut dire que le temple serait détruit. Bon, on ne pouvait pas le croire. Dieu ne va pas. C'est le temple de Dieu, il ne sera pas détruit. Bien oui, le temple de Dieu peut être détruit. Ne mettez pas votre confiance dans les paroles de mensonge. Alors, mais en même temps que Ésaïe devait annoncer ces choses, il montrait la grâce de Dieu. Un jour viendra où un homme appelé Cyrus serait son instrument, son serviteur, et rétablirait la ville, enfin donnerait des ordres pour que la ville soit reconstruite. Alors, cela nous montre une chose. Vous voyez, maintenant, vous avez lu, la première année de Cyrus, roi de Perse. On a donc le nom de Cyrus déjà dans le prophète Ésaïe. Afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de qui? De Jérémie, un autre prophète qui est venu après Ésaïe, qui était au temps de Josias. Et alors tout cela vous amènerait à lire le livre des rois. Et vous lisez maintenant dans Jérémie, que Jérémie lui annonçait la ruine imminente de Jérusalem. Il vivait plus tard qu'Ésaïe, et il disait, eh bien, maintenant, la ville va être détruite. Et il les avertissait de ne pas mettre leur confiance dans des paroles de mensonges, disant c'est le temple de l'Éternel. Nous avons vu cela dans la session précédente. Alors je n'y reviens pas, tout cela a déjà été dit. Mais je cite au chapitre 25, Jérémie dit au peuple,
verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de sa mauvaise voie et de sa méchanceté. Et ils ne sont pas revenus. Et alors, Jérémie les avertit que la ville serait détruite. Mais en même temps, je lis au verset 11e, tout ce pays, une fois que tout sera détruit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant combien de temps? 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Et puis voilà, vous pouvez continuer et vous comprenez maintenant ce premier verset du livre d'Esdras. La première année de Cyrus, vous voyez qui est Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de qui ? De Cyrus. C'est le temps, et Cyrus est né, et il est le roi de Perse maintenant. Il a vaincu quel roi? Belshazzar, successeur, un des successeurs de Nebuchadnezzar. Le royaume de Babylone a passé aux Perses, aux Mèdes et aux Perses. Hein. Et comme c'est le temps, comme c'est l'heure, il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et voyez-vous, qui était auprès de Cyrus à ce moment-là? Quel prophète était là? Non. Non. Daniel. Alors, lisez maintenant Daniel 9. J'essaye de vous montrer comment vous pouvez lire la Bible et comment la comprendre sans sortir de la Bible. Eh bien, Daniel, chapitre 9. Et vous verrez comment nous devrions prier. Prier en lisant la parole. La parole nous amène à la prière et la prière nous amène à la parole. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler combien? 70 ans. Vous retrouvez les 70 ans de Jérémie. Hein? Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vous voyez le lien qu'il y a entre tous ces livres. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Et vous avez toute cette confession de Daniel qui est vraiment merveilleuse, où il supplie Dieu d'accomplir sa promesse. Puisque tu l'as dit, Seigneur, accomplis ta promesse. Fais lire ta face sur ton sanctuaire des olives. Et alors, voilà que Cyrus, certainement, puisque Daniel avait les rouleaux d'Ésaïe, comme aussi de Jérémie, il a pu montrer à Cyrus qu'il était choisi par Dieu pour accomplir ce dessein de Dieu de reconstruire Jérusalem. Et Cyrus, roi des Perses, je reviens à Esdras, fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Après Babylone, c'est maintenant les Perses. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Comment est-ce qu'il le savait ? Par la prophétie d'Ésaïe. Il m'a commandé, il a pris la parole au sérieux et il l'a mis en pratique. Alors, c'est un païen qui est converti au Seigneur et qui exhorte le peuple qui se trouve en captivité. Pourquoi est-ce qu'il est en captivité ? Parce que la parole de Dieu, dans ses menaces comme dans ses promesses, a toujours, tôt ou tard, son accomplissement. Croyez-le bien. Quand vous lisez des menaces dans l'Écriture, croyez qu'il faut les prendre au sérieux. Les gens de Ninive ont pris au sérieux la prédication de Jonas quand il leur disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Ils ont cru que c'était vrai, même si Dieu leur a laissé encore un siècle. Mais il a usé d'un siècle de grâce pour eux. Mais ils avaient pris la parole au sérieux. Tandis qu'au temps de Noé, on n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux. Quand Noé leur disait que le déluge allait venir, eh bien, ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont pris pour un dérangé, pour un capoté, tout ce que vous voulez, comme vous le dites ici. Hein. Et c'était un fou. Construire un bateau en terre sèche, ça ne se fait pas. Alors, eux étaient des gens raisonnables. Ils n'ont pas cru. Mais les animaux, eux, aussi. C'est drôle, hein? Parce que les animaux sont au service du Seigneur. Les animaux ont su et ils sont venus se réfugier dans l'arche selon la pensée de Dieu. Alors, quand Dieu accomplit ses desseins, il emploie qui il veut. C'est pas Cyrus qui a décidé, moi je veux faire quelque chose, hein? Mais il a lu dans l'Écriture, il a reçu du Seigneur cet ordre, c'est du Seigneur qui l'a. Alors, il parle. Qui d'entre vous est de son peuple ? Qui donc est de son peuple ? Tous les déportés, hein ? Ceux qui ont été déportés, qui ont vu justement la ruine du temple de Jérusalem, leur ville incendiée, là il faudrait lire d'autres chapitres, mais enfin on sait que le royaume de Juda a été déporté en captivité à Babylone. Alors, ces gens y étaient depuis 70 ans. Alors, tout à coup, le royaume change de main, c'est un autre roi qui est dans la main de Dieu, que son Dieu soit avec lui, ceux qui sont de son peuple, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Tout est précis, ils savent où ils doivent aller. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des épées, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Parce que ces gens pouvaient se dire, mais comment est-ce que nous pouvons aller là-bas et puis construire une maison, la maison de Dieu ? Mais qui est-ce qui va fournir les biens ? Le roi, lui-même, et les gens du peuple, ceux qui ne monteront pas, qui resteront, eh bien, ils pouvaient faire des offrandes volontaires. Mais qu'est-ce qui a été touché ? Vous l'avez lu, verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin. Alors, il y a les sacrificateurs. Vous avez vu un peu cette liste. Je vous ai dit que vous n'aviez pas besoin de lire les noms. Mais enfin, ceux qui ont été réveillés, il y avait d'abord les sacrificateurs, les lévites, et il y avait les chantres, et il y a eu les fils des portiers, puis tous leurs noms sont notés. Hein. Et les fils des serviteurs de Salomon, les Nétiniens, qui étaient des serviteurs subalternes, et puis un septième groupe, qui étaient des sacrificateurs qui n'avaient pas pu montrer leur généalogie. Alors, eux ne pouvaient pas servir, ils ne pouvaient pas être dans le sacerdoce parce qu'ils n'avaient pas pu prouver leur généalogie. Il fallait donc, Cyrus l'avait bien dit, qui d'entre vous est de son peuple. Il faut être du peuple de Dieu pour servir le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous, aujourd'hui? Voulez-vous mettre au service du Seigneur? Mais il faut prouver votre généalogie. Est-ce que vous êtes du ciel? Ou bien est-ce que vous êtes de ce monde? Parce qu'il y a beaucoup de gens religieux qui sont du monde. Hein. On ne peut pas servir le Seigneur en étant du monde. Il faut être né de nouveau. Et ce n'est pas simplement d'avoir été baptisé. Il faut vivre son baptême. Notre mort avec Christ, notre ensevelissement avec Christ, et notre résurrection en lui. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et il faut pouvoir prouver notre généalogie. Comment la prouver? Pour nous, les chrétiens. Comment est-ce que... Parce que nous, on est chrétiens aujourd'hui, soi-disant. Et puis, vous savez bien, on mettra des pasteurs homosexuels, pour ou hommes ou femmes, on peut faire n'importe quoi aujourd'hui, dans le monde religieux. C'est pourquoi nous devons veiller. Hein? Et nous devons revenir à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vivre dans ce qui est condamné par Dieu comme et appelé une abomination? Est-ce que vous pouvez vivre dans cette vie abominable et puis être au service de Dieu? Je peux avoir beaucoup de compassion pour les pécheurs, et nous sommes tous des pécheurs, hein? Mais je ne peux pas servir Dieu en vivant dans le péché. En vivant dans ce que Dieu dit que c'est abominable. Et puis même qu'il y a le sida maintenant, bien on continue. On veut soigner le sida, bon, c'est d'accord. Mais on ne change pas, on ne veut pas changer notre manière de vivre. Vous voyez que nous sommes toujours des gens de chair. Mais il nous faut laisser l'esprit de la parole nous convaincre. Comment peut-on prouver notre généalogie? Jean, chapitre 1, vous le connaissez par cœur, hein? Verset 12. Qui est vraiment un enfant de Dieu? Il est dit que la parole incarnée est venue chez les siens. Verset 11. Et les siens ne l'ont pas reçu. Donc Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les siens, c'était les Juifs. Hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, donc, qui est le Christ incarné, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Et on le devient par une nouvelle naissance. Hein. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut être né de Dieu. Bien, voilà. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Est-ce que nous avons passé par cette réelle conversion? Est-ce que nous sommes au Seigneur? Est-ce que nous sommes de lui? Voilà une des conditions que vous avez vu. Il fallait être né de lui et il fallait pouvoir prouver notre généalogie. Et alors ils sont montés, donc il y avait des sacrificateurs, et pour nous aujourd'hui, qui est ce sacrificateur? Tous, nous devrions être, tous les enfants de Dieu sont appelés à être sacrificateurs pour son Dieu et Père. Lisez ce que l'apôtre Pierre nous enseigne dans sa première épître, n'est-ce pas? Il a fait de nous, justement, des sacrificateurs, un royaume. Verset chapitre 2 de la première épître de Pierre, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc il faut être du peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il parle des païens. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, nous voyons que dans cette économie actuelle, qui sont les sacrificateurs? Verset 5. À celui qui nous aime, chapitre 1er, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Alors, nous avons donc ce sacerdoce royal à exercer. Donc, ceux qui pouvaient prouver leur généalogie parmi les sacrificateurs avaient donc ce rôle de l'adoration et de représenter Dieu vis-à-vis du peuple et de représenter le peuple auprès de Dieu. Ce que nous devons faire nous aussi. Quand nous sommes auprès du peuple, qu'est-ce que le peuple doit voir en nous, ceux qui intercèdent pour lui? Vous devez être des intercesseurs pour les âmes que vous rencontrez. Et les âmes que vous rencontrez doivent savoir que vous êtes des hommes de Dieu. Des hommes qui les représentent devant Dieu. Vous les portez dans vos cœurs, donc vous les aimez. Vous avez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver, disait Jésus. Maintenant, il y avait les Lévites. Nous avons dit dans notre précédente session ce qu'étaient les Lévites. Donc, les sacrificateurs aussi étaient des Lévites, mais on avait donné le nom de Lévites. Et pour nous, ce qui correspond aux Lévites dans l'Église, c'est les ministères que vous trouvez dans le chapitre 4 des Éphésiens. Il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les Lévites sont ceux qui exercent dans l'Église un ministère. Puis il y avait aussi les chantres. Maintenant il y a beaucoup de chantres, hein, semble-t-il, dans l'Église. Tout le monde est prêt à chanter et veut chanter. Et bien, c'est très heureux. Mais il n'y a pas tellement de sacrificateurs, de gens qui vraiment adorent, qui ont compris ce qu'est l'adoration et qui ont cette âme d'adorateur. Nous devons devenir des adorateurs et des adoratrices de notre Dieu. Et puis, les ministères. Mais il faut que ce soit des ministères. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère? C'est un don que Dieu fait à son Église. Et ce don, c'est une personne. Une personne qu'il qualifie pour un ministère. On n'apprend pas simplement un ministère. On est un ministère. Dieu donne, il a donné des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. On n'apprend pas cela. Oui, on est enseigné par Dieu ensuite. Mais c'est un don, c'est un charisme. Puis il y a les chantres, donc vous savez ce que c'est, et évidemment, à Babylone, ils ne chantaient guère. On leur demandait aux chantres, on savait qu'il y avait des chantres qui avaient été déportés. Ces chantres avaient été établis par le roi David pour chanter les louanges de Dieu dans le temple de Salomon. Mais ces chantres avaient été aussi déportés, et quelquefois, comme on savait qu'ils chantaient bien, à Babylone, on leur demandait de chanter. Vous connaissez l'histoire? Vous avez ça dans un psaume, c'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible. Il ne faut pas seulement lire des petites portions, parce que vous n'y comprendrez rien, vous ne pourrez pas progresser dans la connaissance de l'Écriture. Psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone. Vous voyez, là vous avez une histoire des captifs. Nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de quoi? De Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpe, ils avaient leur harpe avec eux. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Puis leur réponse, comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Et puis il y a cette parole, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je me fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Vous voyez, ils étaient en captivité, mais ils n'étaient pas chez eux, là. Ils ne s'étaient pas adaptés. Leur cœur était resté où? À Jérusalem. Mais pourquoi n'y étaient-ils plus à Jérusalem? Parce qu'ils avaient péché. Ils subissaient la captivité comme conséquence de leur inconséquence. Parce que la parole de Dieu, tôt ou tard, elle s'accomplit. Comprenez-le. Dans ses menaces, comme aussi dans ses promesses.
Et alors, il y avait donc les fils des serviteurs, il y avait les portiers, les fils des portiers qui avaient une tâche plus humble, mais vous voyez, tous ceux qui ont été touchés dans leur cœur et qui soupiraient après Jérusalem, quelle qu'ait été leur position, leur qualité, s'ils étaient du peuple de Dieu, ils pouvaient monter. Mais il fallait que ce soit volontaire. C'était un appel du roi qui disait « Qui d'entre vous est de son peuple ?» Mais il fallait qu'ils aient à cœur d'aller là-bas. Mais c'était quelque chose d'aller là-bas à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver? Il y aurait des ennemis. C'était une terre occupée. On avait déporté des gens d'ailleurs, d'autres pays, des gens païens. Et il y avait un mélange. Là, il faudrait, pour que vous sachiez qui étaient ces gens, que nous allons voir tout à l'heure, c'était les Samaritains. Et il faudrait lire la déportation. C'est ce que faisaient les rois de ce temps-là. Ils gagnaient une guerre, ils vidaient le pays de ses habitants et ils mettaient d'autres habitants, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Et alors, vous avez l'histoire des Samaritains dans les Chroniques aussi et dans le deuxième livre des Rois. Et spécialement dans les Chroniques qui vient juste avant Esdras, il est dit ce qui était arrivé. Et dans le chapitre 17 des Rois aussi, enfin, vous avez ça, on ne va pas s'égarer là. Ce sont des choses que nous avons déjà dites. Mais tous ces groupes donc ont pu monter. Même verset 61, je vous dis encore une chose là, vous avez parmi les fils des sacrificateurs, fils de Abaja, fils de Hakot, fils de Barzilaï, c'est chapitre 2 encore, qui avait pour femme une fille de Barzilaï, le Galadite, et puis à plusieurs noms. Ils cherchèrent, verset 62, oui, c'est ça qu'ils cherchaient. Ils cherchèrent leur type généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Hein. Il fallait pouvoir prouver. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a exclus du sacerdoce. Si vous ne pouvez pas prouver votre type généalogique, on est exclu du sacerdoce. Eh bien, dans notre temps aussi, et nous devons pouvoir prouver nos titres généalogiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je passe. Alors, le chapitre 3 vous a montré qu'ils étaient arrivés. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient en leur ville. Quand Dieu décide une chose, il l'accomplit, il donne les moyens. Et aujourd'hui, évidemment, c'est cela qui nous chagrine, qui nous peine. On veut faire toute espèce d'œuvre pour le Seigneur, puis on n'a pas les moyens. Alors on demande à droite, à gauche, on compte sur les hommes pour nous aider. Alors que là, on comptait sur Dieu, qui donnait les moyens. Le peuple s'est assemblé, chapitre 3, verset 1. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Puis Josué, nous aurons l'occasion cet après-midi de voir qui était ce Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, qui était le gouverneur, qui était nommé gouverneur, avec ses frères, se levèrent. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de bâtir l'autel. Alors là, nous rejoignons la fin de notre session passée, où nous avons vu que la première chose que tous ensemble, arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à faire, c'est de replacer l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, sur son emplacement. Ils n'ont pas cherché un autre emplacement. Ils l'ont rebâti sur l'emplacement où il avait été détruit. Et nous avons montré que l'autel, pour nous maintenant, c'est quoi ? C'est la croix. Il faut remettre la croix à sa place. Et la croix à sa place, c'est la croix dans nos vies. Si nous ne passons pas par la croix, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment arriver au but. Et dans un vrai réveil, ce qui caractérise un vrai réveil spirituel, c'est le retour à la croix. Et là, j'ai montré que qu'est-ce que c'était qu'un réveil ? Eh bien, c'est passer du sommeil à l'état de veille. On quitte le sommeil et puis on entre dans la veille. On est réveillé. C'est ça un réveil. Mais cela veut dire que nous avons toujours tendance à nous assoupir, à nous endormir. Et pourquoi est-ce qu'on s'endort ? Je ne parle pas du sommeil naturel. Il y a le sommeil naturel et dans l'autre session, j'ai montré différents sommeils dont la Bible nous parle. On a fait une étude sur quelques sommeils de la Bible. Mais une des causes de sommeil, nous l'avons vu avec les dix vierges. Pourquoi est-ce qu'elles se sont endormies ? Parce que l'époux tardait. Parce que l'époux tardait. Elles s'assoupirent toutes. Elles sont toutes tombées dans le sommeil. Dans cette nuit-là, veillées, eh bien non, on s'assoupit. Et voyez-vous, on s'endort toujours quand une promesse tarde à s'accomplir. Et quelle est la grande promesse qui doit s'accomplir maintenant pour les chrétiens ? L'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas ? C'est le retour personnel du Seigneur. Mais comme ce n'est pas arrivé, qu'est-ce qui en est maintenant ? On s'endort. On n'attend plus le Seigneur. On attend toute autre chose. Nos pensées sont fixées tout ailleurs que vers la pensée que le Seigneur va revenir. Nous sommes endormis. Les croyants du siècle dernier, qu'on appelle ceux du réveil, ils ont cru que, voilà, eux, ils étaient réveillés et puis qu'ils allaient être de ceux qui allaient être enlevés. Puis voilà, le Seigneur n'est pas venu, ils sont morts. Mais nous qui héritons au fond les vérités de nos prédécesseurs, qu'est-ce qui nous est arrivé ? On s'est endormi à nouveau. C'est tous les jours que nous devons veiller. On dit le cri de minuit a retenti au siècle dernier quand on a redécouvert ces vérités qui étaient depuis toujours. Eh bien, on s'est endormi à nouveau. Et voyez-vous, vous pouvez reprendre ce principe depuis le commencement de l'Écriture. Prenez Adam et Ève. Ils ont péché. Ils sont tombés. Mais Dieu, tout en devant les châtier, leur a fait une promesse de miséricorde. Il leur a promis un libérateur. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce que Ève a cru ? Que ça allait venir tout de suite. Et immédiatement, quand elle a été enceinte de Caïn, elle s'est dit, puisque c'est la postérité de la femme, voilà, ça sera qu'à un autre libérateur. Nous avons péché, mais Dieu va nous donner le libérateur en la personne de Caïn. Et qu'est-ce que Caïn s'est révélé ? Un meurtrier qui a tué Abel. Alors, c'est cela. Ensuite, alors, le monde s'est endormi, mais l'idée qu'il y aurait un libérateur restait, mais on s'assoupissait. Et puis Abraham, quand Dieu a parlé à Abraham, elle lui a montré que sa promesse s'accomplirait dans sa famille. Abraham a pensé aussi que ça allait venir de suite. Puis comme ça ne venait pas, il s'est un peu endormi. avec une servante dans ses bras. Oui. Mais c'est ça, hein, c'est très humain la parole. Puis ça a donné qui ? Ismaël, mais ce n'était pas le libérateur, n'est-ce pas ? On a toujours tendance à s'endormir quand une promesse tarde à s'accomplir. Souvenez-vous bien de cela, hein, quand une promesse de Dieu tarde à s'accomplir, on s'endort. Eh bien, l'Écriture tout entière nous dit, s'il tarde, attends-le. Attends-le quand même. Il nous faut rester sur nos gardes, éveillés. Je l'ai dit souvent, c'est le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à tenir peut-être, mais la réponse viendra. Puis, quand le temps est venu, quand ce fut l'heure de Dieu, eh bien, qui attendait la consolation d'Israël ? Un tout petit groupe. Il y avait Zacharie, Élisabeth, et il y avait la jeune Marie, Siméon, un vieillard, n'est-ce pas ? Dans toutes les classes de la société, il y avait des gens qui attendaient la consolation d'Israël, qui croyaient encore à la promesse. Mais des millénaires avaient passé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un 1000 ans pour le Seigneur ? Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais un jour, ça a été l'aujourd'hui du salut, aujourd'hui dans la ville de David. Il y a bientôt 2000 ans de cela. Est-ce que nous y croyons encore ? Jésus est né, hein ? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui aime qu'on parle de Jésus ? Vous savez très bien qu'on n'aime pas parler de Jésus, au fond. On parlera de toute autre chose. Eh bien, je suis heureux que vous repreniez vraiment conscience avec moi, comme je dois reprendre conscience tous les jours, de cette nécessité de vivre dans l'attente et de croire vraiment que le réveil vient quand on croit de nouveau à cette promesse de la parole. Tu l'as dit, Seigneur, tu l'accompliras. Vous avez vu, il l'avait dit par la bouche d'Ésaïe. Il avait déjà nommé Cyrus. Et un jour, Cyrus apparut. Et puis, Jérémie avait dit, ça durerait 70 ans, l'épreuve de la transportation. Au bout des 70 ans, voilà un Daniel qui prie et qui dit, Seigneur, tu l'as dit. Mais je crois, mes amis, que si nous prions davantage et que nous disions au Seigneur, « Seigneur, accomplis ta promesse, viens bientôt. » C'est le cri de l'Église. C'est vraiment la prière œcuménique, la prière que tous devraient faire. « Viens, Seigneur Jésus. » Mais vous seriez heureux que le Seigneur vienne ? Mais vous pensez toujours, « Mais oui, mais les autres qui ne sont pas encore convertis. » Laissez cela au Seigneur. Témoignez maintenant pour vous, par votre vie, mais faites confiance au Seigneur pour les autres. C'est Dieu qui sauve, c'est pas vous. Et dire, mais Seigneur, je veux pas que tu viennes avant que. Mais vous l'aimez pas. Quand on aime le Seigneur, il a la première place. Et vous devez arriver à cela. C'est la personne du Seigneur qui doit vous occuper. C'est la personne, non pas des doctrines, mais une personne. Est-ce que c'est vraiment la personne du Seigneur que j'aime ? Ou bien est-ce que j'aime seulement des portions de l'Écriture, des formes religieuses ? C'est à une personne qu'on doit être attaché. Et qu'est-ce qui nous attache à cette personne ? C'est la croix. C'est la croix. J'ai été toujours renouvelé dans mon amour pour le Seigneur quand je me replace devant la croix. Parce que là, je vois son amour. Là, à la croix, je vois ma méchanceté. Je vois où a conduit le Seigneur. Où mes péchés ont conduit le Seigneur à la croix. Et je suis renouvelé. Lors même, ils ont donc reconstruit l'autel sur ses bases, à sa place, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans sacrifice. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont offert des holocaustes. L'holocauste, ce n'est pas un sacrifice pour le péché. Et vraiment, dans l'adoration, si vous avez compris l'adoration, dans le culte d'adoration qui a pour centre, au fond, le mémorial de la croix. Qu'est-ce que c'est le mémorial de la croix ? La table du Seigneur. Et dans un vrai culte, il y a la table du Seigneur. Dans un vrai culte. est le mémorial du Seigneur, où on se replace devant ce seul sacrifice fait une fois pour toutes et qui nous rend parfaits à perpétuité. Et on est renouvelé. On ne renouvelle pas le sacrifice, mais nous, on est renouvelé par la mémoire du seul sacrifice. On voit que Jésus est allé jusqu'à la mort pour nous sauver. Et alors, ce qu'on offre là, ce qu'on devrait offrir comme sacrificateur, c'est une louange qui soit de l'adoration. On ne vient pas au culte pour parler de nos péchés. On est devant la croix où nos péchés ont été réglés, expiés, tout a été accompli. Alors qu'est-ce qu'on devrait apporter au Père? L'adoration. Lui dire ce que nous pensons de son Fils, en qui lui il a trouvé tout son plaisir, et que maintenant nous trouvons notre plaisir. Nous devrions avoir un cœur qui déborde. Mais ce n'est pas possible. C'est ton Fils qui est mort pour moi. Et je m'en souviens maintenant. Je me souviens de ça. Alors, relisez le chapitre 5 de l'Apocalypse, le chapitre 4, et vous verrez ce qu'est l'adoration céleste, pour que dans nos cultes, nous ayons cette adoration céleste, que nous ayons aussi des cantiques qui ne parlent pas toujours de nous, de notre misère, mais qui parlent de la gloire du Seigneur, de ce qu'il a accompli et de ce qui va venir. Ayons vraiment la vision de l'avenir, pas simplement du passé. Nous sommes délivrés de notre passé, déculpabilisés. Or, il y a des cultes où ce n'est que la culpabilité. Alors, c'est épouvantable. Vous êtes complètement déprimé quand vous ressortez d'un culte comme ça. Hein? Ça ne vous a pas renouvelé. Tandis que vous pouvez vous réjouir, mais vous réjouir non pas de ce que vous êtes vous, mais de ce qu'il est lui, et de ce que vous êtes en lui, que Dieu vous voit dans les perfections de son Fils. C'est cela qui compte. Et par la grâce de Dieu, bien, il y a des cultes où on réalise cela. Où l'on réalise cela. Mais il faut persévérer. Et voyez-vous, ce qui me frappe, donc ils ont retrouvé vraiment la croix, c'est cela qu'ils ont reconstruit, ils ont offert l'holocauste, non pas le sacrifice pour le péché, mais l'holocauste à la louange de Dieu. L'holocauste, bien, c'est pour nous maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est nous offrir nous-mêmes. C'est le chapitre 12 des Romains. En vertu des compassions du Christ, si on a compris combien le Seigneur nous a aimés, quelle est notre offrande le dimanche matin? Nos corps. N'est-ce pas? Nous offrons nos corps, pas nos péchés. Nous offrons nos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Dimanche après dimanche, on pourrait dire, mais Seigneur, voilà, pour cette semaine qui vient, tu as mon corps. Que tu puisses te glorifier dans mon corps. Tu as eu besoin du corps qui était formé dans le sein de Marie. Maintenant, pour te manifester, tu as besoin de mon corps. Il veut vivre en nous. Il veut vivre en nous. Alors, que nos membres que nous employons avant pour le péché, qu'ils soient consacrés au Seigneur. Et alors, il est dit, vous avez vu cette parole, que verset 6 du chapitre 3, « Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. » Donc, il y a d'abord l'adoration, la croix d'abord. Puis maintenant, il sera question de la maison. Il faut d'abord avoir passé par la croix pour qu'il y ait une maison. Mais comme l'ordre avait été donné de rebâtir la maison, la seconde chose qu'ils ont fait, vous avez ça dans chapitre 3, eh bien, on a veillé à ce que ceux qui étaient capables, qui étaient préposés pour cela, veillent à la fondation du temple. Hein. Verset 10 du chapitre 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes. Donc, c'est la maison qui commence d'être reconstruite. On a posé le fondement, mais sur quel fondement? Sur l'ancien.
sur l'ancien fondement. Et voyez-vous, comme pour l'autel, ils avaient trouvé leur direction où. Je reviens au verset 2, fin du verset 2 du chapitre 3. Ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit. Alors notez bien cela. Ils n'ont pas été au petit bonheur la chance ou selon leur imagination. Ils ont fait selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils ont respecté ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et puis maintenant, pour la maison, ils feront la même chose. Et alors, évidemment, il y avait de la joie. Ils ont fait assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les lévites, avec les cymbales, et ils célébrèrent l'Éternel. D'après quoi? Verset 10. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, parce que c'est David qui avait organisé le culte. Alors, il se base sur Moïse et puis sur David. Il ne renie pas ce qui a été établi. Il retourne à ce qui a été établi. Alors, verset 11, il chantait. Oh, c'est beau, hein, de les entendre chanter de nouveau. À Babylone, il ne chantait pas. On l'a lu dans le psaume 137. Mais là, ils peuvent chanter. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Et vous avez là un de leurs cantiques. Car il est bon, vous le croyez? Vous pouvez chanter ça aussi? Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à tout, et pour nous. Et tout le peuple poussait des cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais voilà! Qu'est-ce qui arrive quand on pose ces fondements? Plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison. Qu'est-ce que c'était la première maison? Le temple de Salomon. Alors, relisez maintenant la dédicace du temple de Salomon. Évidemment, c'était merveilleux. Et Salomon a fait une dédicace extraordinaire. Alors, ceux qui avaient assisté à la dédicace du temple de Salomon, eh bien, il se disait, mais c'est rien ce que nous sommes en train de faire. Et voyez-vous, j'aimerais maintenant passer à notre temps. Oh, si seulement j'avais été du temps de la Pentecôte. Hein. Quand il y a eu la Pentecôte, alors ça, c'était quelque chose. La fondation de l'Église, la première Église, l'Église primitive. Ah, quelle joie! Quand on aurait aimé être du temps de Salomon. Pourquoi est-ce que vous regardez toujours en arrière? Pourquoi est-ce que nous regardons toujours, oui, l'Église primitive, ce que c'était? Est-ce que Dieu n'est pas le même pour aujourd'hui? Vous me dites, oui, mais c'est rien ce que nous vivons maintenant. Mais regardez ce qui va venir. Et souvenez-vous qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Souvenez-vous de cela. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Et il faut être fidèle dans ce qui est petit. C'est vrai qu'il y a eu la ruine, comme Israël a été ruiné aussi. Eh bien, dans l'histoire de l'Église, vous trouvez que c'est triomphant? À quoi est-ce qu'on en arrive, hein? C'est la désunion, c'est la division, c'est la dispersion des croyants. Et quand une œuvre commence à se faire, il y a tout de suite des ennemis pour arrêter une œuvre. Vous pouvez être sûr de cela. Le monde n'a pas changé, les croyants n'ont pas changé non plus. Il faut nous juger de ces choses. Et puis, il ne faut pas toujours penser au passé, il faut voir l'avenir. Alors, il y en a un qui avait vu la première maison, il pleurait à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Et puis beaucoup d'autres faisaient éclater des cris de joie. Vous voyez, alors, d'un côté, il y avait la joie, puis de l'autre, il y avait des larmes. C'est un peu aujourd'hui la même chose. Alors, on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie et le bruit des pleurs parmi le peuple. Dieu n'aime pas le bruit. Il le dit ailleurs. Hein. Car ce peuple poussait de grands cris qui s'entendaient au loin. Mais alors, donc, quelque chose se passait. Alors, qu'est-ce qui arrive quand Dieu accomplit son œuvre? Il y a les ennemis qui se manifestent. Vous avez vu ça au chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient le temple de l'Éternel. C'était les Samaritains, les ennemis de Juda et de Benjamin, qui avaient donc un culte mélangé. Et ils vinrent d'abord auprès de Zorobabel, des chefs de famille, et leur dirent, ils ont de bonnes intentions, hein? Qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Nous bâtirons avec vous, on va vous aider. Et c'est le grand piège, quand le monde religieux veut faire l'œuvre de Dieu. On va vous aider, mais est-ce que leur cœur est pur? Pourquoi est-ce qu'ils veulent aider? Pour saborder l'œuvre. Hein? Ils nous offrent d'abord leur aide. Et vous savez, ça je pourrais vous en dire long là-dessus, quand l'État veut financer nos œuvres, c'est pourquoi? Pour contrôler. Alors, si vous acceptez l'argent de l'État, d'abord, vous n'êtes plus libre. Et voyez-vous, ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu, et ils ont compris cela. On nous dit, mais nous bâtirons avec vous, nous voulons vous aider, nous voulons vous faire des dons. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu, tout le monde invoque le même Dieu, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ce qu'on nous dit. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, tout ça il faudrait lire, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici, tout ça c'est dans d'autres portions de l'Écriture. Mais qu'est-ce que fait Zorobabel et Josué? Et les autres chefs de famille, ils leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Qu'est-ce que Cyrus avait dit? Qui d'entre vous est de son peuple? Pour bâtir la maison de Dieu, il faut des hommes qui soient de son peuple. Une église de multitude où on reçoit n'importe qui, ce n'est pas l'église de Dieu. Comprenez-le? Il y a des principes qui demeurent et qui doivent nous éclairer pour que nous sachions comment marcher aujourd'hui. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus. Ils ont reçu l'ordre de Cyrus, et Cyrus a dit, qui d'entre vous est de son peuple? Mais tout le monde prétend être de son peuple. Et alors, rien ne va plus, parce que c'est le grand mélange. Alors, vous voyez, quand on a une position ferme, quand on veut tenir sur la parole, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Vous voyez qu'ils n'étaient pas adroits. Ils veulent collaborer, mais ensuite, ils montrent leurs vrais sentiments et ils font un travail de découragement. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Puis même, ça va plus loin, ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer l'entreprise. Donc ils n'étaient pas de cœur, vraiment. Hein. Ils voulaient, soi-disant, bâtir. Mais tout à coup, ils manifestent le fond de leur cœur. Ils essayent de faire échouer l'entreprise en soudoyant des Juifs. Et comme il y a eu un Judas, il y a eu de ce temps-là aussi des gens qui se sont laissés soudoyer pour de l'argent, on fera n'importe quoi. Il en fut ainsi toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation. Alors vous voyez, on peut suivre cette gradation. On veut travailler avec vous. Et au fond, c'est un mensonge. Hein. Ensuite, quand il y a le refus, ils montrent leurs véritables intentions, ils font tout pour faire échouer l'entreprise, ils soudoient même avec de l'argent les conseillers. Puis ensuite, ils deviennent franchement des accusateurs. Vous l'avez lu au verset 6. Hein. Ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et vous savez, c'est facile de nous accuser. Et dans l'accusation, qu'est-ce qui va se produire? Vous avez lu l'accusation. Et du temps d'Artaxerxès, donc ils envoient une lettre, verset 7. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Et puis, vous avez toute cette lettre qui parle de ce qui s'est passé, verset 11. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, que le roi sache que les Juifs, partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville. Puis, qu'est-ce qu'ils disent de la ville? Rebelle et méchante. C'était vrai. Hein? Elle avait été rebelle et méchante. Hein? C'est la vérité. C'était une ville qui avait été rebelle et méchante, sans elle n'aurait pas été détruit. Et il relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Vous voyez, la flatterie pour le roi, hein, pour lui montrer, mais tu auras à en souffrir. Or, comme nous mangeons, vous voyez, ça c'est la flatterie, la politique, hein, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, vous voyez les arguments, nous envoyons au roi ces informations, nous te rendons service, hein. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle. C'était vrai? Oui, ça allait être découvert que c'était vrai. Funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai, hein. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Et alors, vous voyez qu'ils mentent, ils disent au roi, n'est-ce pas, que ces Juifs sont en train de rebâtir la ville et qu'ils ont rebâti le temple, mais ce n'était pas vrai, ils n'avaient posé que le fondement, n'est-ce pas? Alors qu'il parle d'une ville déjà rebâtie et des murailles. Alors la réponse, vous l'avez eue, par le roi Rehum, ils ont vu les choses, verset 18, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi, j'ai donné ordre de faire des recherches, on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition, à la révolte. Il y a à Jérusalem des rois puissants, même de tout le pays, de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait le tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, alors, ils sont arrivés à leur fin, et un ordre qui vient du roi, qui n'est plus Cyrus, de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Voilà. Alors, gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue, par le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte, vous voyez, à Jérusalem, vers les Juifs, et ils firent cesser leurs travaux, par quoi? Par la violence et la force. Vous voyez, d'abord on veut travailler avec vous. Ensuite, on soudoie les conseillers pour faire échouer l'entreprise. Ensuite, on envoie une lettre d'accusation. Et pour finir, on use de violence et de force. Et alors, verset 24, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison du Dieu d'Israël. Il y avait un réveil qui avait commencé, hein, par le moyen de Cyrus et par le moyen de ces hommes qui étaient montés. Mais maintenant que ces hommes sont au travail, eh bien, on arrête le travail. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et pourtant, quand ils ont rétabli l'autel, verset 3 du chapitre 3, ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays. Hein? Il y avait déjà de l'opposition, mais ils avaient osé, parce qu'ils s'en remettaient à Dieu à ce moment-là. Ils avaient encore cette foi que Dieu pouvait les garder. Il y avait déjà de l'opposition, mais ils ont redressé l'autel. Mais maintenant, eh bien, ils s'arrêtent. Et pendant combien de temps est-ce que ça a été arrêté, l'œuvre? Pendant 15 ans. Et comment est-ce que le travail a repris? Par le moyen, vous avez lu au chapitre 5, c'est ce que nous verrons cet après-midi, Agé et Zacharie, le prophète, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom d'Israël. Au fond, il y a eu un réveil, mais maintenant il y a de nouveau le sommeil, hein, on s'est endormi. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 15 ans, qui n'ont pas travaillé au temple. Ils ont travaillé à quoi? À leur maison. Vous comprenez? On ne travaille plus pour le temple de Dieu, mais on travaille pour soi. Et c'est là la grande leçon. Quand on arrête de servir le Seigneur, qu'est-ce qu'on sert? On sert soi. Ça, c'est une grande leçon. Quand vous aurez arrêté de servir le Seigneur parce qu'il y a des difficultés, parce que vous avez de l'opprobre, etc., qu'est-ce qui vous arrivera? Vous servirez vous-même. Vous travaillerez pour vos propres intérêts. On ne sait pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est le temps du réveil aujourd'hui? C'est déjà l'heure de nous réveiller. Nous l'avons vu à l'autre session. C'est l'heure maintenant. Alors, là, vous avez les réponses. Il y a-t-il une heure pour un réveil? Pour nous, c'est déjà l'heure. Nous connaissons le temps. Et c'est l'heure de nous réveiller. Alors, qui est la source de ce réveil? C'est Dieu. C'est pas nous qui disons, nous sommes des hommes de réveil. C'est Dieu qui nous réveille. Mais par quel moyen? Par la parole. Par la parole de ses serviteurs. Alors nous allons voir qui était Agé, qui était Zacharie, les prophètes qui ont prophétisé, et comment Zorobabel et Josué ont été les premiers à se réveiller pour bâtir la maison de l'Éternel. Ils étaient avec les prophètes qui les assistaient et ils bâtissent cette maison. Alors on vient leur dire, parce que les hommes passent, hein, pendant ces 15 ans, les premiers qui avaient écrit la lettre sont morts. Mais il y en a des nouveaux qui viennent leur demander, verset 3 du chapitre 5, « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs ?» 15 ans avaient passé, ils avaient eu du succès, donc les opposants, par la force, ils leur avaient fait peur, et on n'avait plus travaillé. Mais maintenant, on leur demande de nous qui nous a... Et ils leur dirent, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Vous savez, c'est la persécution qui va commencer. Est-ce que vous êtes prêts à donner vos noms? Verset 5. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens juifs. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous savez, on n'est pas anonyme dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes responsables. On sait nos noms. Et s'il y avait une persécution, on sait qui on va atteindre. Qui sont ceux qu'il faut d'abord frapper pour qu'ils ne puissent plus parler. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des juifs. C'est beau ça. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a l'œil de Dieu sur vous? L'œil de Dieu est sur vous. Vous allez dire, oh, il ne me regarde plus. Mais il est un Dieu sauveur, il vous a sauvé. N'ayez pas peur. L'œil de Dieu est sur vous. Les gens peuvent vous regarder. Pas d'importance. Alors, on laisse ça continuer. Pourtant, vous voyez, quand l'œil de Dieu est sur nous, on nous laisse faire certaines choses. On laissa continuer les travaux. Même les ennemis peuvent laisser continuer les travaux. Et ça se trouve encore aujourd'hui. Des ennemis peuvent nous laisser travailler. Mais des fois, d'autres cherchent à nous en empêcher. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, la parole. Il y a tout dans cette parole. On laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception de la lettre en cet objet. Et alors, ils ont adressé une lettre un peu semblable et ils disent, bien oui, ils disent dans cette lettre que la maison est en train de se reconstruire et ils disent même que le travail marche, comment? Verset 8, rapidement et qu'il réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Il faut savoir que ça va arriver aussi peut-être pour nous. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse et qu'ils nous ont faite et ils ont eu l'occasion de témoigner. Qu'est-ce qu'ils disent? La vérité. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Est-ce que c'est une autre maison qu'ils reconstruisent? Non, c'est la même maison, comprenez-vous? Alors, on n'a pas à faire de nouvelles églises, nous autres. Nous avons à travailler à la seule maison. Comprenez-vous? C'est pas de faire des nouvelles églises, c'est de travailler à la seule maison de l'Éternel. C'est d'amener des pierres pour cette maison, qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Qui était ce roi? Salomon. Vous voyez que ça commence à entrer dans vos cœurs. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, vous voyez qu'ils se reconnaissent, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Ils disent la vérité. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et avait transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Shelbatsar, c'est Zorobabel, c'est son nom chaldéen, qu'il établit gouverneur. Et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie et sur le lieu où elle était. C'est pas dans un autre lieu. Et Shelbatsar est donc venu, il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Eh bien, pour nous, l'Église, elle est en construction. Mais c'est la même Église, n'est-ce pas, qui est en construction. Et qui est-ce qui ajoute les pierres, comme nous allons le voir cet après-midi et ce soir? C'est le Seigneur. On va tomber dans les actes maintenant. Mais je voulais que vous ayez cette connaissance pour montrer quels sont vraiment les signes d'un vrai réveil quand Dieu travaille. Alors, Cyrus, le chapitre 6, vous l'avez lu, je le pense, hein, et il constate que c'est vrai et il donne l'ordre de continuer. Alors, nous ne continuons pas maintenant, parce que l'heure est venue et nous voulons respecter l'horaire, nous prions.
Dieu notre Père, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Et c'est pourquoi nous voulons te demander que tu mettes sur toute cette assemblée un véritable esprit de prière, de supplication, pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Par ta parole, qui est vivante et opérante. Maintenant, veuille bénir la nourriture que nous allons prendre ensemble. Nourris nos corps et que les forces renouvelées, nous puissions les employer à te servir et à te glorifier. En Jésus. Amen.